Vous écoutez, on lit pour vous.
Apprendre de la Grande-Bretagne pour criminaliser efficacement le contrôle coercitif. Un texte de Stéphanie Marin paru le 18 novembre 2024 dans Le Devoir. Une mission québécoise a traversé l'océan pour voir comment l'Écosse et l'Angleterre s'y sont prises quand elles ont criminalisé le contrôle coercitif d'un partenaire intime afin d'ouvrir la voie à la création d'une infraction similaire au pays. Son rapport que Le Devoir a pu consulter détaille diverses recommandations pour éviter les écueils rencontrés là-bas. Les constats de l'équipe de mission apaisent aussi des craintes, dont celle que l'infraction de contrôle coercitif, aussitôt créée, soit utilisée par les agresseurs pour nuire à leurs victimes. Un projet de loi est actuellement à l'étude à Ottawa afin d'ajouter le contrôle coercitif à la liste des comportements prohibés par le Code criminel et dont l'objectif est de mieux protéger les victimes de violences conjugales. Le contrôle coercitif désigne un continuum de violences, d'exploitation, d'humiliation et de manipulation exercées de façon répétée par son auteur dans le but d'établir et de maintenir sa domination sur sa victime. Il s'agit d'une prise de contrôle insidieuse et progressive qui n'a pas nécessairement besoin de coups pour s'exercer. Pour convaincre les élus de donner le feu vert à ce projet de loi C-332, les membres de la mission québécoise sont allés voir ailleurs quelles y ont été les conditions gagnantes pour implanter une nouvelle infraction de ce type. Des représentantes du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, le regroupement, et un chef de police québécois ont donc rencontré des procureurs de la Couronne, des chercheurs et des policiers à Londres et à Édimbourg en mai 2024. Une des préoccupations soulevées lors de l'étude de C-332, que l'infraction de contrôle coercitif se retourne contre les victimes. Ce serait le cas, par exemple, quand une personne porte plainte à la police contre son conjoint pour des actes de contrôle coercitif et que celui-ci porte plainte à son tour, alléguant être la réelle victime, en guise de représailles. Des inquiétudes dissipées. Ce qui a été observé en Angleterre et en Écosse, où le contrôle coercitif est respectivement criminalisé depuis 2015 et 2019, permet de dissiper les inquiétudes, estiment les membres de la mission. Tout le monde confirme là-bas que cela ne s'est pas retourné contre les victimes, a fait valoir en entrevue Maître Karine Barrette, chargée de projet au sein du regroupement, qui a fait partie de la mission en Grande-Bretagne. L'une des raisons qui explique cette réussite est que les policiers anglais et écossais ont été formés pour bien inscrire dans leur rapport qui est l'agresseur principal, rapporte Francis Lanouette, qui représentait l'Association canadienne des chefs de police lors de la mission. Cette détermination est faite au niveau policier avant que le dossier ne soit entre les mains des procureurs de la Couronne, dit-il, approuvant cette façon de faire. Cela évite aux victimes d'être arrêtées et donc d'être revictimisées. La formation en amont de tous les intervenants du système judiciaire, c'est-à-dire avant même que l'infraction ne soit en vigueur, a été une clé du succès de l'Écosse, a déclaré Maître Barrette en entrevue. C'est crucial, ajoute-t-elle, car pour reconnaître la dynamique de contrôle et déposer des chefs d'accusation, il faut bien la comprendre. Si c'est le cas, les intervenants pourront bien informer et aider, est-il expliqué dans le rapport. L'un des rôles des policiers est d'éclairer la victime qui vit du contrôle coercitif, mais qui l'ignore. S'ils ne maîtrisent pas bien le concept, ils ne poseront pas les questions pertinentes et n'iront pas recueillir la preuve nécessaire. Lorsque les acteurs judiciaires sont formés, ils sont en mesure d'aller creuser l'historique de la relation pour déterminer quel partenaire tente de dominer et de prendre le contrôle sur l'autre. Ainsi, la tentative d'instrumentalisation de la plainte criminelle par l'auteur de violence devient caduque, puisqu'il n'existe aucune preuve d'un schéma de comportement mis en place par la victime de contrôle coercitif. Peut-on aussi lire dans le rapport. Maître Barrette retient aussi de son séjour outre-mer qu'un autre gage de succès est de former les aspirants policiers et avocats pendant qu'ils sont encore sur les bancs d'école, plutôt que de tenter de les libérer de leur emploi par la suite pour suivre des formations, dit-elle. M. Lanouette juge très importante une autre recommandation du rapport, celle qui parle du contrôle de la qualité. Elle propose de mettre en place un système dans lequel les policiers examineraient toutes les plaintes de contrôle coercitif après coup, afin de voir comment elles ont été analysées. Il ne faut pas que le traitement d'une plainte varie d'un policier à l'autre, dit-il. Le rapport recommande aussi la création d'équipes spécialisées en contrôle coercitif au sein des corps policiers, ainsi que des équipes provinciales consacrées aux multirécidivistes. Quant à Louise Riendeau, co-responsable des dossiers politiques au sein du regroupement, elle fait valoir les avantages d'une grande campagne de sensibilisation pour que tout le monde puisse reconnaître les signes du contrôle coercitif, car cette dynamique de violence n'est pas encore connue de tous. Le rapport de la mission québécoise a déjà été remis à des élus, en commençant par ceux du Québec, car même si le droit criminel relève du gouvernement fédéral, Québec a joué et peut jouer un rôle de leader au pays, estime Mme Riendeau. On a beaucoup avancé au Québec, mais la création de l'infraction a toute son importance, conclut-elle, car le contrôle coercitif est un réel prédicteur de risque d'homicide. À partir du moment où c'est une infraction criminelle, ça devient officiel et c'est quelque chose que l'on documente. L'infraction va aussi donner des leviers aux policiers pour agir, dit-elle, convaincue. C'était « Apprendre de la Grande-Bretagne pour criminaliser efficacement le contrôle coercitif », un texte de Stéphanie Marin, paru le 18 novembre 2024 dans Le Devoir.
Les singes qui font la paix. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 14 novembre 2024 dans Québec Science. Une modification extrême de l'environnement peut aboutir à une modification surprenante des comportements. C'est en tout cas ce que nous enseignent les macaques de Porto Rico. Camille Testard se rend pour la première fois sur Cayo Santiago à l'automne 2018. Une petite embarcation dépose la doctorante en neuroéthologie sur cet îlot au large de Porto Rico, dans les Caraïbes. Des centaines de singes crient pour l'accueillir, impatients de se faire nourrir par le personnel de la réserve. Autrement, les macaques sont libres comme l'air. Sur cette île, ce sont les humains qui sont en cage et pas les singes, souligne la jeune chercheuse. Environ 1500 macaques rhésus vivent sur Cayo Santiago. Ce singe, originaire d'Asie, a été introduit sur l'île en 1938 par un primatologue américain qui voulait étudier l'espèce. Près d'un siècle plus tard, la population suscite toujours l'intérêt des scientifiques. La forte densité d'animaux permet d'observer avec une précision inégalée la dynamique sociale des singes. Par nature, les macaques rhésus sont très agressifs. Au sein des groupes de 20 à 200 singes, chaque individu connaît précisément son rang social. Un rhésus cultive les amitiés et les rivalités. Il ne laissera pas n'importe quel camarade le côtoyer ou l'épouiller. Des rixes éclatent fréquemment. Les singes se battent pour accéder à de la nourriture, à de l'eau ou pour jouir d'un endroit prisé. Un an avant la venue de Camille Testard, un événement avait toutefois fait dérailler le train-train quotidien des macaques. Le 20 septembre 2017, l'ouragan Maria frappe Porto Rico. Ces vents impétueux disloquent les habitations et abattent le réseau électrique. Ces pluies torrentielles inondent les villes. Environ 3 000 personnes perdent la vie. l'île mettra des années à se relever de la pire catastrophe de son histoire. La nature subit également un dur coup. Le cyclone rase pratiquement toute la végétation de Cayo Santiago. Par miracle, la grande majorité des singes s'en sortent indemnes. Leur vie ne sera toutefois plus la même. Avec la disparition de la forêt tropicale, une ressource est devenue sacrément rare, l'ombre. L'île est désormais un gros rocher où, sous le soleil de midi, le mercure dépasse régulièrement les 40 degrés Celsius. Quelques jours après l'ouragan, deux assistants de recherche portoricains retournent à Cayo Santiago. Ils remarquent immédiatement une transformation dans le comportement des singes. Certains macaques, qui se fuyaient comme la peste, acceptent désormais de se fréquenter. Les singes tolèrent beaucoup plus de congénères à proximité. Les cliques au sein des groupes, autrefois à couteau tiré, ont fait la paix. L'équipe scientifique postule alors que l'accès à l'ombre est à l'origine de cette révolution. A priori, on aurait pu imaginer que pour se prévaloir des meilleures cachettes, les singes deviennent plus combatifs. En réalité, cela semble être l'inverse. Les macaques auraient abaissé leur agressivité d'un cran pour s'assurer un refuge ombragé, quitte à se prélasser aux côtés de leur pire ennemi. Pour vérifier cette hypothèse, Camille Testard, qui est désormais chercheuse postdoctorale à l'Université Harvard, au Massachusetts, s'est mise à l'œuvre. Elle a analysé des informations recueillies de 2013 à 2022, avant et après l'ouragan, à propos de 790 singes. Cette base de données, patiemment assemblée par une équipe locale, inventorie les singes qui se fréquentent et consigne les belligérants des conflits. Dans un article publié en juin 2024 dans Science, la neuroéthologue et ses collègues confirment que les macaques ont adapté leur comportement social pour profiter de davantage d'ombre. Et que ce nouveau comportement s'est généralisé. La bonne entente et la promiscuité règnent aussi dans la fraîcheur du matin. L'analyse révèle en outre qu'entretenir davantage d'amitié favorise la survie d'un individu. On peut carrément parler d'une nouvelle norme sociale au sein de la communauté simiesque, soutient Camille Testard. L'adaptation est culturelle et non génétique, puisque certains macaques ont radicalement modifié leur comportement après l'ouragan. La nouvelle norme sociale est maintenant transmise aux rhésus nés après 2017, qui démontrent une attitude clémente envers leur père. Avec les changements climatiques, les Caraïbes verront déferler davantage de cyclones de la trempe de Maria. Les singes de Cayo Santiago démontre clairement que la malléabilité sociale est un outil à la disposition des animaux qui doivent faire face à des défis climatiques, sécheresse, tempête, redoux, en hiver. Ce genre de situation, ce n'est pas rare, fait remarquer Camille Testard, mais le fait d'avoir des scientifiques sur le terrain qui récoltent des données depuis des années et de pouvoir l'observer, ça, c'est unique au monde. C'était « Les singes font la paix », un texte d'Alexis Riopel, paru le 14 novembre 2024 dans Québec Science.
La Maison du livre, un texte de Salomé Corbeau, paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir. Maman, est-ce qu'on va retourner à la Maison du livre cette année? Me demande ma cadette, les yeux pleins d'étoiles. Un café à la main, les yeux bouffis par un sommeil morcelé, autre symptôme de la fabuleuse périménopause dont nous reparlerons dans une autre chronique, promis. J'avoue que j'ai peine à la suivre. Qu'est-ce que tu veux dire par la maison du livre? Tu parles d'une maison d'édition? Non, pas ça. On y va chaque année, en métro. Il y a plein de livres. Ah, le salon du livre. Oui, on y va vendredi. Tu peux amener une amie, si tu veux. On va aller manger dans le quartier chinois après. Hurrah! Il n'en fallait pas plus pour qu'elle reparte préparer son sac d'école en sautillant. Chaque année, depuis leur naissance, mes enfants viennent me rejoindre au Salon du Livre de Montréal, où je fais acte de présence, souvent en tant que porte-parole de la Fondation pour l'alphabétisation, parfois parce que j'y fais une performance artistique ou encore parce que je participe à une émission de radio. C'est devenu, par la force des choses, une tradition familiale. Maintenant plus âgés, mes enfants s'aventurent seuls dans les rayons remplis de livres équipés de notre carte de débit et autorisés à acheter jusqu'à 3 ouvrages chacun. Ils errent dans les allées, examinant les collections, lisant les quatrièmes de couverture. Je m'amuse à les observer de loin. Mon fils prend souvent une décision rapide, tandis que ma fille, submergée par les choix, hésite longtemps. Fin novembre 2024 avait lieu le 47e Salon du Livre de Montréal au Palais des Congrès. Avec près de 92 000 visiteurs et quelques 2 000 écrivains invités, l'événement littéraire a connu un succès retentissant. Il y a quelque chose qui me rassure profondément dans le succès de ce pèlerinage annuel. J'aime voir ces milliers de bibliophiles venir explorer les allées ou faire signer leurs exemplaires par leurs auteurs préférés. Je me dis que le livre n'est pas encore un objet complètement obsolète. Ceux qui critiquent cet événement le perçoivent généralement comme une exposition marchande éphémère organisée juste avant les fêtes. Ils l'accusent d'être exclusivement axé sur les ventes plutôt que sur l'éloge de la littérature, avec une majuscule. Je comprends leur point de vue, mais il est aussi crucial que des auteurs puissent vivre de leur art, ce qui implique nécessairement des ventes de livres dans divers contextes. En visite au salon, il est certain que nous allons remarquer que le guide de l'auto est ici entouré d'essais philosophiques, tandis que des livres de cuisine se trouvent à proximité de recueils de poésie. L'expérience est manifestement différente de celle que nous offre une petite librairie indépendante au sein de laquelle une libraire peut nous conseiller un formidable polar scandinave ou nous guider vers le dernier Murakami. Reste que dans ce mélange des styles et des genres, on trouve de tout pour tous les goûts et c'est ce qui fait la richesse de ce rendez-vous. Il n'est pas surprenant de voir autant de personnes différentes se rassembler pour célébrer leur amour des livres. C'est ce qui m'impressionne le plus chaque année. Cette foule bigarrée et joyeuse composée de personnes de milieux socio-économiques si différents. J'y ai croisé un honorable ami juge, venu en famille avec ses parents et ses ados, qui, tous, affichaient une mine ravie. J'ai aussi salué un autre ami, comédien et boucher, venu avec sa douce moitié, un exemplaire du propriétarisme de Carl Bessette à la main. J'ai discuté quelques instants avec de nouvelles connaissances venues avec leurs 4 enfants âgés de 3 à 11 ans. Je dis « quelques instants » parce que la fillette de 3 ans n'avait qu'une seule envie, partir à l'aventure en poussant sa propre poussette. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir à espionner les files d'attente devant les kiosques de Jeannette Bertrand, de Kev Lambert ou de Farah Alibé. Des gens de tous les âges, à la fois patients et excités d'être à quelques mètres de leurs idoles. Et je sais de sources sûres que les auteurs sont aussi ravis de faire la connaissance de leurs lecteurs lors des séances de dédicaces. Les auteurs en sortent souvent exténués, mais émus et motivés à poursuivre leur œuvre. Les acteurs gagnent l'approbation et l'affection du public presque instantanément, tandis que les écrivains travaillent dans l'isolement. Les auteurs ne savent pas quand, comment ni par qui leurs écrits sont lus. Les salons sont l'occasion pour eux de recevoir tout l'amour qu'ils méritent. Ensuite, il y a les tables rondes, les spectacles en direct et les coins lecture pour les tout-petits. Toutes ces activités rendent ces événements riches et animés. Réussir à réunir sous le même toit les amateurs de livres de croissance personnelle, les passionnés de littérature contemporaine et les otaku, ces avides lecteurs de manga, est déjà un exploit en soi. Satisfaire leur soif de découverte est encore plus difficile. Personnellement, la seule chose qui m'insupporte au Salon du Livre, c'est d'avoir à marcher sur ces affreuses moquettes industrielles. Inévitablement, on se charge en électricité statique. Ma robe se colle à mes collants, mes cheveux ne respectent plus aucune coiffure et il m'est impossible d'embrasser ou de serrer la main sans craindre un petit choc électrique. Si c'est le prix à payer pour voir mes enfants s'émerveiller devant la kyrielle de livres qui s'offrent à eux, je suis prête à endurer ces maudits tapis en souriant à Joséphine Bacon de loin, trop gênée pour oser aller lui parler en personne. C'était « La Maison du Livre », un texte de Salomé Corbeau, paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir.
Un politicien ose prendre congé, un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 29 novembre 2024 dans La Presse. La politique est un bien drôle de milieu. C'est bien le seul métier où, même si vous faites des heures de fou, il se trouve des gens, souvent vos adversaires, pour vous reprocher de prendre parfois une journée de congé. Même si c'est amplement mérité, même si ça fera de vous un meilleur élu. Dernièrement, deux politiciens qui n'ont pas grand-chose en commun, Justin Trudeau et Paul-Saint-Pierre Plamondon, ont fait les manchettes parce qu'ils ont osé prendre congé. Et ensuite, on se demande pourquoi des candidats de qualité qui auraient beaucoup à offrir au débat public hésitent à entrer dans l'arène politique. Après avoir travaillé 19 jours sur 22, dont un séjour à l'étranger pour des réunions internationales, depuis le début de novembre 2024, Justin Trudeau a passé son vendredi soir du 22 novembre en congé avec ses enfants au spectacle de Taylor Swift à Toronto. En même temps, à Montréal, une manifestation contre l'OTAN a dérapé. Un petit groupe d'une trentaine de casseurs a lancé des bombes fumigènes, brisé des vitrines et incendié une voiture. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, n'allait pas manquer une si belle occasion de passer à l'attaque. Selon M. Poilievre, ces actes de violence sont le symbole du chaos qui règne au Canada après 9 années de politique radicale sous Justin Trudeau, a-t-il écrit sur X. Comme l'a expliqué ma collègue Isabelle Haché, cette lecture de la situation, c'était n'importe quoi. Dans sa publication, M. Poilievre y est aussi allé d'une attaque personnelle. Trudeau danse pendant que Montréal brûle. Ce que sous-entend M. Poilievre, un premier ministre ne doit jamais prendre une soirée de congé avec ses enfants, en tout cas pas sans se le faire reprocher. Étant donné ses fonctions, un premier ministre n'est évidemment jamais complètement en congé. Il est disponible en tout temps s'il y a une urgence nationale. La manifestation à Montréal, certes condamnable, ne se qualifiait pas comme une urgence d'une telle importance. M. Poilievre a réagi à la manifestation sur le réseau X vendredi soir à 23h55. Le lendemain matin très tôt, à 7h23, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, condamnait les casseurs. Considérant que les gens dorment la nuit et qu'il n'y avait pas urgence nationale, le gouvernement Trudeau a réagi correctement. Le premier ministre Trudeau a aussi lui-même condamné les actes d'antisémitisme, d'intimidation et de violence quelques heures plus tard, le samedi midi suivant. Après Justin Trudeau, c'est au tour du chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon, de se faire reprocher de prendre congé. Après 14 jours de travail consécutif, y compris les week-ends, M. Saint-Pierre Plamondon s'est absenté le mardi du lendemain de l'annonce surprise de Donald Trump sur les tarifs. Le chef du PQ a tout de même écrit sur le sujet sur ses réseaux sociaux de ce matin-là. Selon Cube Radio, M. Saint-Pierre Plamondon aurait passé la journée de mardi au spa. Imaginez! Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a dénoncé l'absence du chef du PQ à l'Assemblée nationale qui étudiait ce jour-là un projet de loi visant à réduire le nombre d'étudiants étrangers au Québec. Je ne sais pas où il était, mais je peux vous dire qu'il n'était pas en commission parlementaire où on étudiait les demandes d'asile, les étudiants étrangers et l'immigration, a dit le ministre Roberge. Il lance ce pavé dans la mare, et quand on vient étudier sérieusement le projet de loi, aucun député du PQ n'est présent. Le ministre Roberge, un parlementaire qui ne verse habituellement pas dans les attaques personnelles, aurait mieux fait de se garder une petite gêne. Les chefs de partis politiques mènent généralement une vie de fou. Ils travaillent extrêmement fort, et M. Roberge le sait très bien. S'attaquer à son adversaire parce qu'il prend une journée de congé, c'est du picossage. Justin Trudeau a bien fait de passer son vendredi soir avec ses enfants au concert de Taylor Swift. Paul Saint-Pierre Plamondon a bien fait de prendre une journée de congé, peu importe ce qu'il a fait. Si ses attaques personnelles contre Justin Trudeau et Paul Saint-Pierre Plamondon sont particulièrement malsaines, c'est parce qu'elles renforcent cette fausse croyance, malheureusement répandue, qu'un employé enchaîné à son bureau qui fait de longues heures est plus productif que son collègue qui fait des heures normales. À la fin des années 2000, deux chercheuses de Harvard ont fait une étude sur les habitudes de travail des employés du Boston Consultant Group. Leur conclusion, les consultants étaient plus productifs quand on les obligeait à prendre du repos, comme les soirs et les week-ends. Travailler de longues heures, plus de 55 par semaine, peut aussi mener à davantage de problèmes de santé. À long terme, les employés travaillant moins de 40 heures par semaine obtenaient de meilleurs résultats à des examens cognitifs que les employés travaillant plus de 55 heures par semaine, ont constaté des chercheurs finlandais. Bref, le cerveau humain n'est pas fait pour travailler continuellement. Il a besoin de se reposer. Ça vaut pour tout le monde, pour nos élus aussi. C'était « Un politicien ose prendre congé », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 29 novembre 2024 dans la presse.